Je vous invite à vous tourner avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. On va commencer à partir du verset 40. Nous allons remettre ce temps au Seigneur. Oui Seigneur, nous venons à toi les mains vides. Nous avons besoin de toi pour notre destinée éternelle, mais même pour notre vie au quotidien, Seigneur. Et cela, nous qui te connaissons, nous le reconnaissons bien volontiers, Seigneur. Nous n'avons rien à offrir en dehors de toi, Seigneur. D'autant plus que toutes les capacités ou les talents, entre guillemets, que nous pouvons avoir, nous te les devons. C'est toi qui nous les donnes, Seigneur. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, de quelque nature qu'il soit, et surtout de l'orgueil spirituel. C'est quelque chose que tu abhorres, quelque chose qui est abominable à tes yeux, Seigneur. Lorsque tu étais sur cette terre, ce qui te révulsait le plus, c'était les responsables religieux qui faisaient une barrière entre toi et le peuple, Seigneur. Donne-nous de n'être jamais dans une telle position, Seigneur. Et même les responsables spirituels et dans les églises, dans les missions, Seigneur, c'est des gens qui ont autant besoin de toi, sinon plus que ceux qui ne sont pas directement impliqués dans un ministère, Seigneur. Remplis-nous d'humilité, remplis-nous de reconnaissance de notre besoin de toi, Seigneur. Sois à l'œuvre dans nos vies. Merci pour l'exemple d'aujourd'hui, de ces relations de deux pères avec deux filles, Seigneur. Aide-nous à recevoir ce que ton esprit veut nous donner aujourd'hui, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, sois béni pour ta parole. Elle seule est la vérité. Par elle, nous pouvons nous laisser guider. Nous devons nous laisser guider, Seigneur. Tant de voix s'élèvent, tant de brouhaha autour de nous. Aide-nous à trouver chaque jour le temps de silence où nous pouvons te rencontrer, t'écouter, recevoir de toi, être dirigé, être repris aussi. Seigneur, nous sommes des pécheurs qui avons besoin de confesser nos fautes au quotidien, nos péchés. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu présent, Seigneur. Comme nous allons le voir, Seigneur, il y a 6 ou 7 milliards d'hommes sur la terre et pourtant chaque personne peut avoir une relation personnelle avec toi. Et Seigneur, c'est encore plus vrai et ou plus triste lorsque ça n'arrive pas pour tes enfants dans l'Église, Seigneur. Aide-nous à ne pas seulement compter sur une réunion ou deux par semaine pour venir à toi, mais aide-nous à vivre en contact avec toi, avec ta parole. Seigneur, nous savons que tu te réjouis lorsque tes enfants recherchent cette intimité avec toi, Seigneur. Sois béni. Dans le nom de Jésus, nous le prions. Amen. On va voir deux guérisons. Luc, encore une fois, présente Jésus comme celui qui est le Fils de l'homme, qui est Dieu incarné en homme. Et le Fils de l'homme, c'est un titre qui vient de Daniel 7. Lorsque ce terme est utilisé, c'est une référence qui montre que Jésus répond aux prophéties de l'Ancien Testament. Et en tant que Fils de l'homme, il est aussi Dieu incarné, et nous savons qu'il a la puissance de faire des miracles, ce que nous n'arrivons pas à faire par nos forces humaines. Lui, il est capable de les faire. Mais ce qui est très important, c'est de savoir qu'il est le Fils de l'homme et que ces miracles qu'il fait, il nous est possible de les faire pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et Quand on le voit faire des miracles, on dit « Oh, c'est facile, c'était Jésus ». Mais non, il était dépendant sur l'Esprit-Saint. Et la puissance que nous voyons à l'œuvre, elle est à notre... Nous pouvons la partager lorsque nous faisons la volonté de Dieu et que nous faisons appel à lui et à son Esprit. Une chose qui est triste, c'est que comme les Galates, on a tendance à commencer dans l'esprit et à terminer par la chair. L'Église ne va avoir aucune influence dans le monde d'aujourd'hui si elle ne compte pas sur la présence de l'Esprit-Saint. Si nous ne nous attendons pas à des choses miraculeuses, nous sommes rien de plus qu'une organisation un peu humaine qui raconte des choses merveilleuses sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans ou plus longtemps. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, si nous ne connaissons pas la puissance de Dieu, si nous ne la voyons pas à l'œuvre, nous sommes comme ces gens que Jésus reprenait en leur disant « Vous ne connaissez pas la parole ni la puissance de Dieu. » Parce que lorsqu'on connaît la parole, on s'attend à la puissance de Dieu dans nos vies. Et souvent, on a connu des choses miraculeuses, mais après, comme on apprend à connaître la Bible, on pense qu'on a tout compris. Mais on oublie la puissance de Dieu à faire des miracles. Et on ne s'attend plus à ça. Et ça, c'est vraiment triste. Parce que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Il fait des miracles. Il répond aux prières. Alors vous me dites, c'est tomber en panne d'essence et demander pas tomber en panne d'essence, ce n'est pas un grand miracle. Mais je vous assure qu'au moment où j'ai fait cette prière, c'était un grand miracle pour moi que j'attendais. Mais Dieu peut faire des miracles beaucoup plus importants. Il peut sauver vos proches, ceux qui sont loin de lui. Il peut les toucher. Et en un instant, ce qui vous paraît tellement improbable, tellement impossible, ça peut être réalisé. Est-ce que vous priez pour les autorités de ce pays ? Dieu nous demande de le faire. Il est dit dans Timothée que ce soit pour nous permettre de continuer à vivre notre foi, à la pratiquer, mais aussi pour leur salut. Eux aussi ont besoin peut-être encore plus que nous de toute la sagesse divine pour prendre des décisions. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit peut toucher le président Hollande ? Oh, bof ! Impossible ! Dieu, à Dieu, rien n'est impossible. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand vous vous attendez au miracle, à la puissance de Dieu, vous avez une toute autre attitude vis-à-vis de la vie et de vos circonstances. Vous pensez que Dieu est capable de faire des choses belles, que Dieu est capable de vous surprendre. Vous vivez dans cette attente. Et la chose la plus terrible, c'est le découragement, c'est le pessimisme, ne s'attendre à rien. Faites attention, encore une fois, quand je vous parle, je me parle à moi-même. Nous avons tellement de tendance à être négatifs. Alors ce n'est pas une philosophie du positivisme, de dire tout va bien et tout va très bien, Madame la Marquise, c'est une vieille chanson des années 40, alors que tout allait mal. Ce n'est pas une méthode couée. Ce psychologue français qui disait « Si vous dites « Tout va bien, 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 finir par aller bien. » Mais c'est une belle attitude vis-à-vis des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Nous vivons dans un monde déchu et nous devons voir le potentiel à la lumière de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu peut faire. Et à l'aube de cette nouvelle année ecclésiale, pour employer un terme pompeux, pour cette année nouvelle de l'Église qui commence à la rentrée. Finalement, ce n'est pas le 1er janvier qu'on commence, hein, on commence fin août, début septembre. Nous devons nous attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de vos enfants, dans votre mariage, dans votre église, dans votre travail, Dieu veut et peut faire des miracles. Mais encore une fois, il ne peut pas agir devant un peuple incrédule. Prions pour que l'Église en France ait cette attente. Prions pour que l'Église en France croit que Dieu peut transformer la France. Prions pour que Dieu fasse avancer l'Évangile de façon spectaculaire. Prions Dieu pour un réveil en France. Soyons prêts lorsque des gens vont venir parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ne trouvent plus de satisfaction dans l'économie, dans la politique, qu'ils réalisent qu'en fait, il doit y avoir autre chose. Soyons là pour leur dire quelle est cette chose, qui est cette personne. Et là, nous avons ce Dieu de miracles qui se révèle être, dans les passages précédents que nous avons lus, le Dieu qui contrôle la nature, le Dieu... Je lisais encore que les météorologues nous promettent des catastrophes climatiques dans les mois et les années à venir. Ça, c'est bien. Merci, monsieur les météorologues. Alors, c'est bien d'être au courant qu'il y a des règlements, qu'il ne faille pas construire des logements dans les zones inondables et tout ça. Mais encore une fois, c'est pour vous paralyser par le négativisme. Oh là là, tout va mal. Oh. On sait que tout va mal. Et nous connaissons la solution. Et cette solution, c'est Jésus. C'est Jésus proclamé, sa mort proclamée, sa résurrection proclamée. Nous avons vu encore dans la parabole des semeurs que tout ce qu'il nous demande, c'est de semer. Alors c'est bien si on sait mieux semer que d'autres. Donc je ne rejette pas les programmes qui vous permettent d'apprendre à partager votre foi de façon plus intelligente, plus pertinente. Mais ce qui compte, c'est de partager votre foi. Même si vous avez été chrétien depuis 2 semaines, vous pouvez dire « Hey, je suis allé à l'église là-bas et j'ai ressenti une paix, ils ont demandé que je reçoive le Seigneur dans mon cœur, j'ai prié, j'ai pu dormir comme un bébé ». Pas comme un bébé qui pleure, qui se relève et qui réveille sa maman, mais comme un bébé qui dort bien. Et c'est ainsi. Et après, on a vu, il y a 4 types différents de sol, et puis il y a un sol, quand cette semence, elle tombe dans ce bon sol, elle donne du fruit à 100 fois plus qu'il n'a été semé. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le bon sol. On ne peut pas le deviner. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est semer, partager autour de vous, dire à vos parents, dire à vos collègues, dire à vos voisins, il y a un Dieu qui vous aime, j'apprends à le connaître dans la Bible. Est-ce que vous voulez venir à une étude biblique? Est-ce que vous voulez faire partie d'un groupe de maison? Vous serez surpris et la vie, votre vie de chrétien va prendre une toute nouvelle dimension. Si vous êtes là comme dans un ghetto, tout va mal, là on prie, on sait qu'on aura la vie éternelle, chouette alors. Non, le Seigneur vous appelle à une vie abondante aujourd'hui. Et cette vie abondante, c'est de vivre pour lui, de vivre par lui, c'est de partager la foi autour de vous et de regarder ce qu'il va faire. C'est intéressant parce que lorsqu'on se retrouve à cette conférence de missionnaires où nous sommes allés depuis, c'était la 21e année, et qu'on regarde un peu en arrière, on voit toute l'œuvre que le Seigneur a accomplie avec des gens qui ont été assez bêtes pour croire qu'ils pouvaient faire quelque chose. Au tout début, on aurait pu dire l'Europe est post-chrétienne, ça ne sert à rien d'essayer d'implanter des églises. Ou alors on peut se dire non, Dieu promet qu'il bâtit son église, il nous demande d'aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre, en Judée et en Samarie et aux extrémités de la terre, Il veut disséminer sa semence, la bonne parole. Et je vous assure que quand on voit l'œuvre, qu'on regarde en arrière, même regardez dans votre vie, les changements qui ont pris place, c'est très important de voir que Dieu agit. Parce qu'au jour le jour, on est découragé, on a l'impression que rien n'avance, que les choses reculent. Et c'est vrai que les temps deviennent de plus en plus noirs, mais c'est là que plus c'est noir et plus la lumière brille. Et on ne chasse pas les ténèbres en diminuant l'obscurité, on chasse les ténèbres en allumant la lumière. Et vous êtes appelés à être ces lumières autour de vous. N'ayez pas honte. On va voir encore comment les gens se moquaient de Jésus. C'est pas drôle d'être moqué. On a toujours notre petit orgueil. Et lorsqu'on se moque de nous, on est blessé. Mais s'ils ont blessé Jésus par leur moquerie, comme il nous le dit, s'ils ont persécuté le maître, pourquoi pensez-vous qu'ils ne persécuteront pas les disciples ? Commence une introduction un peu longue. Verset 40, Luc 8. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Commence à parler de ses miracles. Et les gens, par curiosité ou par besoin égoïste, se disent « ça serait bien de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, qu'est-ce qu'il fait ?» Et voici qu'il vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il est souvent question dans le Nouveau Testament de chef de la synagogue. Et dans les trois cas, spécialement auxquels je pense, ils sont même nommés. On connaît Jaïrus ici. Il y aura un dénommé Crispus et puis l'autre, j'ai oublié. Mais Jésus parle des chefs des synagogues. Qu'est-ce que c'était que la synagogue ? Alors on pense que synagogue c'est un mot juif, non c'est un mot grec. Syn, ça veut dire ensemble, et agogo c'est aller quelque part, donc c'est l'assemblée, les assemblées des juifs. Lorsqu'il n'y avait plus le temple après la dispersion des juifs en exil, ils ont commencé à se réunir et ils ont ramené ça à Jérusalem et en Judée et en Samarie. Il y avait des synagogues où on lisait la parole de Dieu. À l'époque, c'était l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament était en train d'être vécu et écrit. Et le chef de la synagogue, c'était un personnage important. C'est lui qui gérait la synagogue, qui organisait les cultes, qui demandait à des personnes d'intervenir, de lire la parole. Donc c'était un personnage. C'est un peu comme le curé ou le pasteur de l'époque. Il avait un rôle social reconnu et c'était quelqu'un généralement qui avait des moyens financiers, c'était quelqu'un qui était respecté. Et on sait qu'à l'époque, Jésus était mal reçu dans les synagogues, mais là, il est bien reçu. Ou plutôt, cet homme a de la considération pour Jésus parce qu'il a vu les miracles et il s'est fait une opinion positive de Jésus. C'est intéressant parce que cette synagogue, on pense que c'est la synagogue à Capernaum et on peut la visiter aujourd'hui. quand on va en Israël, on visite ce qui reste de la synagogue. Et en fait, c'est vraiment fantastique de penser qu'on marche là où Jésus a marché. Et la Bible prend une dimension de réalité qui est fantastique. C'est peut-être pas le meilleur mot, parce que fantastique, ça veut dire légende, mais qui est très, très forte, très réelle. On voit que la Bible, c'est pas un joli bouquin de légendes, de contes, de mythes et de légendes. C'est un livre historique, c'est un livre sur lequel nous pouvons compter. Parce que des choses historiques sont confirmées. Quelqu'un comme Luc donnait des détails historiques qui ont été confirmés extra-bibliquement, c'est-à-dire par d'autres sources que la Bible. Et s'il était un si bon historien pour ce qui concernait les choses non spirituelles, on n'a aucun doute à avoir sur ce qu'il partage, pour ce qu'il partage spirituellement, les paroles de Jésus ne soient pas aussi la vérité. D'autant plus qu'il y avait des témoins encore vivants qui auraient pu contester et dire non, ça c'est pas, c'est du blabla, comme on dit aujourd'hui. C'est des paroles, des promesses électorales. Jésus cherchait pas à se faire élire. Il allait à la croix pour ces gens à qui il partageait la vérité d'un Dieu qui les aime et qui était prêt à pardonner les péchés par le sacrifice de son propre Fils. Malgré toutes ces ressources dont disposait Jaïrus, enfin il vient à Jésus dans le désespoir. Parce que la chose la plus précieuse qu'il avait au monde, son enfant, une petite fille unique de 12 ans, un bel âge, tous les âges sont beaux, ne me méprenez pas, mais un enfant qui commence à découvrir le monde, et là, on nous dit qu'en fait, c'était un âge important parce que c'était l'âge de la nubilité en Israël. Un garçon pouvait commencer à marier des jeunes enfants à partir de 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Mais cet enfant qui était tellement précieuse aux yeux de son papa, elle était malade et elle allait mourir. Elle était gravement, gravement malade. C'est intéressant, vous vous souvenez du centenier, il avait demandé une guérison pour son serviteur à Jésus. Et ce païen, ce non-juif, faisait confiance à Jésus pour guérir à distance. Ici, on a Jaïrus, quelqu'un qui connaissait la Bible, l'Ancien Testament, qui devait être normalement quelqu'un de foi. Il veut que Jésus vienne sur place. Il se dit, il n'a même pas pensé au fait que Jésus peut guérir à distance. Et donc Jésus généreusement accepte d'aller. Et il est pressé par la foule, il est bousculé. Il y a une semaine, j'ai essayé de retrouver Nathanaël et les jeunes Allemandes qui étaient de passage à Nice, après un an passé ici, pendant le feu d'artifice du 15 août, je crois, oui. Et en plus, j'étais à vélo, donc j'essayais de me frayer un passage dans la foule. Les gens ne bougent pas, vous attendez, ils reculent, il faut reculer. J'étais bien sûr descendu de mon vélo, j'ai même porté mon vélo. Finalement, je les ai retrouvés. Mais quand vous essayez de progresser dans la foule, c'est difficile. Et Jésus lui-même est bousculé. Et on va voir que Jésus est interrompu. Est-ce que vous êtes, on parle en psychologie de type A et de type B. Les types A, c'est les gens qui sont toujours impatients, qui veulent toujours tout faire eux-mêmes, qui veulent voir des choses. Et puis les types B, c'est des gens plus relax, qui n'ont pas de problème de tension artérielle, qui peuvent faire face à des situations des fois plus difficiles sans paniquer, sans embêter tout leur entourage. Je vois des sourires autour de la salle, donc vous vous reconnaissez un peu. Mais moi je suis un type A, si vous ne l'aviez pas remarqué. Je vous demande pardon parce que des fois ça veut dire que je ne prends pas le temps de vous rencontrer, de vous parler, ou je vous parle, mais il y a quelque chose qui attire mon attention et je vais vous laisser en plan. Et vraiment, c'est un très mauvais témoignage. Parce que Jésus, là, montre qu'il est un homme, fils de Dieu, qui ne craint pas les interruptions. Est-ce que vous êtes dispo ? Est-ce que vous êtes disponible pour le servir le Seigneur ? Et un pasteur disait, la meilleure façon de ne pas être dérangé par les interruptions, c'est de s'attendre à des interruptions. Et quand l'interruption intervient, vous lui dites « Bonjour, je t'attendais. Comment ça va ? Dis-moi tout. » Jésus n'est jamais interrompu. Il prend son temps. Il est guidé, bien sûr, par l'Esprit Saint, parce que chaque jour, il priait, il rencontrait le Seigneur, il obéissait à l'Esprit. Mais on imagine que ça a dû être très dur pour le papa de cette petite fille. Parce que au verset 43, c'est l'interruption. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien chez les médecins. Pas de sécurité sociale. Aujourd'hui encore, si on veut traiter rapidement, même à Nice, il faut aller voir le docteur directement et ça coûte un peu plus cher. C'est souvent illégal, mais c'est toujours une réalité. Et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Pour ce Jaïrus, ça devait être sa patience était mise à rude épreuve. J'imagine un peu la situation comme des fois vous voyez, vous aimeriez laisser passer une ambulance qui klaxonne, mais il y a des embouteillages inextricables et vous voyez l'ambulance qui gagne une place à la fois. Et pour les personnes qui sont avec la personne blessée ou accidentée, c'est terrible de voir tout le temps. Et là, ça devait être pareil pour cet homme. Et là, c'est intéressant, c'est une femme qui est atteinte d'une perte de sang, une maladie d'ordre gynécologique qui fait qu'elle est toujours en train d'avoir des écoulements de sang qu'elle doit stopper, elle doit nettoyer ses vêtements. Elle avait, dans certaines Bibles, c'est entre crochets, ça veut dire que ce n'est pas dans tous les manuscrits, mais dans certains manuscrits, je ne sais pas si c'est un commentaire de certains qui ont dit, qui voulaient critiquer la médecine de l'époque, et ça, encore une fois, ça s'applique à la médecine d'aujourd'hui. elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Autrement dit, il ne lui restait plus rien. Elle était tombée dans la pauvreté. Et non seulement ça, mais elle était toujours malade. Elle avait été guérie par personne. C'est une illustration des fois de ce que nous cherchons à guérir nos âmes en allant chez différents docteurs. Ça peut être le docteur des loisirs, le docteur des sports, le docteur des bons placements financiers. Et puis au fin de compte, ça ne guérit pas le mal dans nos âmes. C'est intéressant aussi, en Autriche, on avait une serveuse autrichienne qui n'allait pas bien, et on lui a proposé de prier pour elle. Elle a dit oui. Donc on a prié pour elle et on lui a dit, mais ce qui est plus important encore, c'est de guérir ton âme. Et elle a reconnu, oui, j'ai besoin de plus. Il y avait un autre pasteur avec moi, j'espère qu'il a pu la revoir, et on n'avait pas le temps de présenter l'évangile à ce moment-là. Mais chaque année, il y a des missionnaires, des pasteurs qui viennent. Ce n'est pas en allant chez tous ces médecins, tous ces hommes politiques qui vont guérir votre âme. C'est important, encore une fois, je ne méprise pas. Moi-même, je peux m'exciter pour les situations politiques, des absurdités qui sont faites sur le plan économique, sur le plan d'organisation du pays, des tas de choses. Mais pensons toujours que la solution, elle va venir de Jésus, de l'évangile annoncé dans notre pays. C'est le seul remède qui marche. Elle s'approche, elle avait entendu parler des guérisons de Jésus, et elle avait s'était faite l'idée, ou la conviction plutôt, que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Le problème, c'est qu'en raison de sa maladie, elle était ce qu'on appelait cérémonialement impure. Dans l'Ancien Testament, il y avait des règles, dans le Lévitique notamment, qui vous invitaient à être guéri avant de vous approcher de Dieu. Et tout ça, c'était pas pour faire du mal aux personnes, isoler les gens, comme les lépreux et leurs taches sur leur corps devaient être guéries. Tout ça, c'était un type, une préfiguration du péché qui nous empêche d'aller à Dieu. La seule façon dont nous pouvons aller à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par Jésus. Nul ne vient au Père que par le pardon, par la sanctification, par la nouvelle vie que nous donnent Jésus et l'Esprit-Saint. Et de la même façon, cette femme ne pouvait pas participer à la vie du temple, parce qu'elle avait ses écoulements de sang. On ne pouvait pas s'asseoir sur une chaise sur laquelle elle s'était assise sans qu'il y ait eu une cérémonie de purification. Et toutes ces cérémonies, tous ces sacrifices de l'Ancien Testament, des fois on se demande, mais c'est bien compliqué. Tout ça, c'est fait pour nous montrer que le péché, on ne s'en débarrasse pas facilement. Le péché nous coûte beaucoup. Le péché, c'est très grave. Parce qu'en fin de compte, même le plus petit des péchés a causé la mort du Fils de Dieu venu sur la terre pour ce but. On a souvent tendance à regarder même nos petits péchés comme des choses pas bien graves. Nous n'avons aucune raison de pécher. Je me parle à moi-même. Nous pouvons demander l'aide de Dieu qui peut nous donner la victoire sur tous les péchés car il l'a acquise à la croix. Mais à des moments, on ne cherche pas l'aide de Dieu. On dit, Jésus, Seigneur, ne regarde pas, je reviendrai à toi, je te demanderai pardon plus tard. Lâche-moi un peu. C'est très péjoratif, c'est très blasphématoire de dire ça, mais souvent c'est simplement ce que nous faisons. Lâche-moi, Seigneur. Dangereux. Parce que si le Seigneur vous lâche, vraiment, vous êtes mal barré pour parler dans le même style de langage. Et là, elle vient toucher la frange du vêtement de Jésus. Ça aussi, on voit dans l'Ancien Testament que les personnes religieuses, les rabbins, les prêtres, les grands prêtres avaient des vêtements avec des franges, souvent des petits nœuds au bout. Et elle avait l'impression, la conviction, c'est un peu, on pourrait penser que c'est un peu superstitieux, comme des fois on dit, si je vais marcher à un rythme régulier, si je ne marche pas sur la jointure de deux pavés sur le trottoir, ça veut dire que je vais avoir mon permis de conduire. Et là, on triche un peu parce qu'on voit que peut-être personne n'a jamais fait ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai trouvé ça tout seul quand j'étais petit. Personne ne m'a jamais montré. Mais on a tendance à avoir des superstitions. C'est le vendredi 13, c'est le moment d'acheter un billet de loto. Oh, qui c'est qui croit aux superstitions ? C'est dépassé, c'est anti-scientifique, on est quand même au 21e siècle. Elle touche le vêtement de Jésus et là, instantanément, elle sent que quelque chose se passe et qu'elle est guérie. Et puis Jésus a cette réaction un peu bizarre en disant « Qui m'a touché ?» Tous disent « pas moi ». Et Pierre lui dit « Attends ». Il essaye d'être respectueux, mais il dit « ça va pas, Jésus. Tu demandes qui t'a touché, on est bousculé depuis une demi-heure, là on est dans la foule en train de se frayer un passage, et tu demandes qui t'a touché. La foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répond « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » Il était conscient qu'il y avait la puissance divine qui avait été mise en œuvre pour guérir quelqu'un. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a une grande différence entre être pressé et être touché. Vous pouvez être, et ça s'applique à nous tous, on peut vivre au milieu de la foule et penser parce qu'on presse un peu Jésus, parce qu'on le bouscule un peu de loin, qu'on est béni, qu'on va être béni, que ça suffit. Non, Jésus veut que vous veniez le toucher pour qu'il puisse vous toucher. Il veut qu'il y ait une relation profonde, il veut une intimité. Et la femme, réalisant qu'il a compris qu'elle l'avait touché, elle se jette en tremblant à ses pieds. Et dit devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché. C'était un peu humiliant de reconnaître qu'elle avait ce problème menstruel ou d'obstétrique, de gynécologie qui l'empêchait de vivre, non seulement pratiquement, mais aussi socialement, religieusement. Elle ne pouvait pas participer à la vie. Et elle leur dit comment elle a été guérie à l'instant. Certains trouvent que c'est un peu cruel de Jésus de la mettre dans cette position. Il l'embarrasse, mais ce n'est pas pour lui faire du mal. Elle se trouve embarrassée parce qu'il lui demande de... D'abord, il veut qu'elle sache qu'elle est guérie complètement. Elle aurait pu dire « Ah oui, ça s'est arrêté, mais... » Ça fait 12 ans que ça repart et ça s'arrête. Et il lui demande, elle explique qu'elle a été guérie à l'instant. si vous avez été guéri par le Seigneur, vous devez le dire autour de vous. Les chrétiens, ça ne doit pas être des agents secrets. Et si tous les chrétiens de France commençaient un peu à parler du Seigneur au restaurant, dans leur conversation, au lieu de parler du match de foot ou du dernier film, beaucoup de monde entendrait parler. Beaucoup plus de monde en entendrait parler de Jésus. Et elle explique qu'elle a été guérie à l'instant. Jésus peut vous guérir en un instant de vos problèmes. Ça peut être pour arrêter de fumer, ça peut être pour arrêter la pornographie qui vous décourage, qui vous mine, mais à laquelle vous semblez ne pas pouvoir résister. Ça peut être physiquement un problème physique qui vous touche et vous fait du mal depuis longtemps, en un instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et là, le mot qui est utilisé, c'est non seulement sa guérison, mais c'est sa guérison spirituelle aussi. Parce qu'elle a fait confiance au Fils de Dieu. Il lui dit même, tu peux aller en paix, va en paix. Ce qu'il avait dit à d'autres pécheresses, à la femme prise en adultère, va, ne pêche plus, va en paix. Lorsque nous venons à Jésus, il nous renvoie dans le monde, mais il nous renvoie avec sa paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on est béatement souriant, qu'on ne va plus avoir de problèmes, mais on a ce soutien à l'intérieur de notre cœur, de notre vie, qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie en proclamant un espoir. Pendant ce temps-là, il y a notre brave Jairus, qui doit ronger son frein, comme on dit en français, qui n'en peut plus. Ça doit être, il doit faire tout ce qu'il peut pour se retenir de ne pas dire à Jésus, « Jésus, dépêche-toi !» Pendant ce temps-là, Jésus est en train de présenter cette femme à la foule en disant, « Jésus, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Et là, une autre interruption pour Jésus. Verset 49, il parlait encore lorsque survint le chef de la synagogue, on ne dit pas qui c'était, quelqu'un qui disait, c'est fini, vous avez trop tardé, ta fille est morte, n'embête plus le maître. On peut penser que c'est peut-être dit avec un ton sarcastique. N'importune plus ce Jésus qui guérit soi-disant. Jésus entend ces paroles et rassure Jairus en lui disant, « Sois sans crainte, crois seulement. » Et Jésus nous dit à tous aujourd'hui, même si vous le connaissez, « Ne crains rien, crois seulement. Fais-moi confiance. » N'aie pas peur pour l'avenir. Elle sera sauvée. Là aussi, c'est le mot qui peut être guéri, mais aussi sauvé spirituellement de la conséquence du péché, la mort éternelle. Verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Plusieurs moments, on retrouve Pierre, Jean et Jacques comme les plus proches de Jésus sur le mont de la Transfiguration. Mais j'aime bien la remarque que quelqu'un faisait, c'est que en fait, c'était peut-être parce que c'était les plus turbulents, un peu comme un maître d'école qui dit « Oh, il faut que je surveille les trois là. Vous venez avec moi !» Il va faire un miracle, mais il n'a pas besoin de le faire devant la foule. Il y a un dénommé Benny Hinn qui va venir à Nice, qui a été invité par certains pasteurs ou chrétiens. Et il aime bien annoncer à l'avance que tel jour, il va y avoir une grande réunion, il va y avoir des guérisons. Alors j'aime pas généralement citer des noms, mais et je sais que je prends le risque en le citant de vous inciter à aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais Benny Hinn a une histoire de charlatan. C'est quelqu'un qui vit dans le luxe. Rolls-Royce, maison, robinet en or, qui va faire tourner son manteau pour guérir les malades et qui peut intervenir parce qu'il y a des puissances qui peuvent être à l'œuvre. Mais vous êtes libre de vous faire vous-même une idée, mais mon conseil, ma recommandation, c'est n'y allez pas. J'ai essayé de parler à certaines personnes, mais encore une fois, le spectaculaire, le sensationnel plaît à certaines personnes, plaît à tous, mais en tant que pasteur, je veux vous mettre en garde contre ces pasteurs qui viennent des fois tondre les moutons et non pas servir les moutons, les brebis. Et c'est toujours lorsque les gens sont convaincus du bien fondé de l'intervention de telle ou telle personne, c'est toujours difficile de s'opposer ou de dire non, pas du tout, vous faites fausse route, mais je leur dis, et peut-être ils m'écoutent, en ce moment, ils font fausse route. C'est un gars qui parlait qu'il n'y avait pas seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il y avait chacun de ces Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes, étaient composées elles-mêmes de trois autres personnes. Père, Fils et Saint-Esprit du Père, Père, Fils et Saint-Esprit du Fils, Père, Fils et Saint-Esprit du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bibliques. Tournons la page. Jésus guérit, il fait ça discrètement. Il ne fait pas ça avec les projecteurs et la télévision et en arrivant en voiture de luxe pour aller parler. Et guérir, il le fait parce qu'il a de la compassion. C'est la compassion qui motive Jésus-Christ. Il a de la compassion. Et il a de la puissance. Des fois, on se dit, quand des amis, des membres de nos familles sont dans des difficultés, des épreuves, tout ce qu'on peut offrir, c'est de la compassion. On souffre avec eux, mais on a pas de solution, parce que nous sommes que des êtres humains, et surtout lorsqu'on ne fait pas appel à la prière et au Saint-Esprit. Encore une fois, par le Saint-Esprit, quelqu'un peut être guéri, une solution peut être amenée à n'importe quel type de problème, mais souvent, ce qui était bien avec Jésus, c'est que non seulement il avait la compassion, mais il avait la puissance parce qu'il vivait selon Dieu, en obéissant à la parole, en obéissant au Saint-Esprit, et ça nous est offert à tous. Alors ça ne veut pas dire qu'on nécessairement on va pouvoir ressusciter des morts, mais pourquoi pas ? Et dans certaines situations, des morts sont ressuscités, pas par la personne, mais par le don de guérison, par le don donné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est comme tous les guérisseurs. Malheureusement, en France, il y a plus de guérisseurs que de pasteurs ou de missionnaires. Ils ont tendance à vous dire « j'ai les remèdes pour votre problème ». Et puis, ça vous coûtera 350 euros. Il y a des charlatans. Ne vous laissez pas tromper par les charlatans, qu'ils soient des docteurs ou des pasteurs. Il vient donc tous pleurer et se lamenter sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Dans d'autres, cet épisode est relaté dans les deux autres évangiles de Matthieu et de Marc. On sait qu'il y avait des gens qui étaient payés pour venir pleurer. pour marquer le deuil. On pleurait déjà, on était triste, mais pour être bien vu, pour être sûr qu'on disait à tout le monde qu'on manquait beaucoup ces personnes. On est très affligé, on embauchait des gens, des pleureuses qui venaient pleurer. Peut-être vous vous souvenez, pour les plus anciens parmi nous, du film Zorba le Grec avec Anthony Quinn. Et dans ce film, il y a des pleureuses. Ça se passait en Grèce. Je sais qu'en Corse aussi, quand mes parents, dans les années de guerre, habitaient en Corse, ma mère avait vu des pleureuses qui venaient. « Ah, le pauvre Signore oh. !» Et là, on les voit qui pleurent comme ça, qui font leur simagré, et après qui rigolent, qui se moquent de Jésus. Ça nous rappelle que Jésus, la chose qu'il détestait par-dessus tout, c'était l'hypocrisie religieuse. Et rien de plus terrible que... Et c'est montré par le fait que vous pouvez pleurer avec quelqu'un et vous moquer de la personne 30 secondes plus tard. Soyons authentiques. Ne dites pas à quelqu'un « Oh, c'est triste, je vais prier pour toi » si vous n'avez aucune intention de le faire. Vous pouvez dire « C'est triste, je suis désolé pour toi. » Mais ne prenez pas d'engagement à la légère. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et Jésus leur dit « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort seulement. » Alors certains ont dit « Oui, c'était en fait, ils s'étaient trompés, ils pensaient que... Elle était morte alors qu'en fait, elle s'était un peu évanouie. Non, Jésus parle de cette expression parce qu'on n'est jamais mort avec Jésus. On va tous ressusciter, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la damnation éternelle. Il y a trois types de morts. Il y a la mort physique, c'est lorsque l'esprit quitte le corps. C'est dans Jacques que l'on lit ça. Il y a la mort spirituelle, lorsque nous sommes sans esprit dans notre être, sans esprit qui puisse connaître l'Esprit Saint. Et puis la mort éternelle, c'est la séparation pour toujours d'avec Dieu. Et Jésus est venu pour que vous ne connaissiez jamais cette séparation éternelle d'avec Dieu. Et eux, ils se moquaient de lui parce qu'ils savaient qu'elle était morte. Donc elle était bien morte. Mais pour Jésus, ce n'était qu'un sommeil, parce que la vie que nous vivons ici, c'est une préparation pour une vie après la vie physique. Son esprit revint en elle, à l'instant elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. C'est pas chouette cet aspect pratique de Jésus ? Vous savez, il y a cette spiritualité, les gens qui vous disent « Oui, je cherche de la spiritualité !» Jésus est réel, il est puissant, il est réel, il a la puissance de Dieu, il est Dieu lui-même, mais en même temps il ne fait pas des simagrées, il est très pratique. Il sait qu'une ado a besoin de manger, donnez-lui à manger. Et puis il l'a saisi par la main en lui disant « Talita kumi, enfant lève-toi » ou « Mon petit agneau lève-toi », des termes très tendres, affectueux. Aujourd'hui, on dirait peut-être, je ne sais pas, mon petit chou, relève-toi. Et elle se relève, et les parents de la jeune fille furent étonnés. Le mot est un peu faible, ils étaient à côté d'eux-mêmes dans leur étonnement. Ils n'en revenaient pas, on dirait aujourd'hui. Et puis il termine en disant, il leur recommanda de dire à personne ce qui était arrivé. Encore une fois, on est des fois un peu perplexe, c'est parce qu'il voulait se révéler lui-même à un temps donné, à son heure. Certains obéissaient, d'autres désobéissaient, mais il demandait toujours, suivant les cas, de dire ou de rien dire. Nous, il nous a dit de dire à tous, à tout le monde, partout, tout le temps, et on fait les agents secrets. On dessine le poisson sur nos voitures, on met l'autocollant, on sait qu'on se reconnaît entre nous, mais ça ne va pas plus loin. Il y a un mot qui est utilisé ici par Jésus, qui n'est utilisé qu'une fois, c'est lorsque Jésus lui dit « ma fille ». Jésus n'a jamais utilisé ce terme. Ça montre combien il était affectueux, tendre avec cette femme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en fait la guérison de deux filles. Il y a une fille avait été la joie de ses parents pendant 12 ans, l'autre fille avait souffert pendant 12 ans de cette terrible maladie. Et c'est intéressant de comparer un peu les deux situations. Jairus avait eu 12 ans de bonheur, elle avait été la joie de sa famille. Et ces 12 ans allaient terminer, allaient être éteints. La femme, elle, avait eu 12 ans d'agonie qui allait désespérant, mais qui semblait être guérie maintenant. On a dit déjà que ce un était un personnage important, Jairus. L'autre, on ne connaît pas son nom. C'était quelqu'un de pas connu, d'inconnu. On a dit que Jairus, c'était quelqu'un de riche. Elle avait dépensé tout son argent avec les assurances et les docteurs. Jairus est venu publiquement, elle est venue en secret. Jairus savait que c'était Jésus qui guérissait sa fille. Elle pensait que c'était peut-être le fait d'avoir touché sa frange, mais il y avait quand même une dimension de foi. Jésus a répondu à la femme malade instantanément alors qu'il a laissé attendre Jairus. La fille de Jairus a été guérie secrètement, la femme a été guérie publiquement. Tout ça pour dire que Jésus s'intéresse avec le même intérêt, le même amour à tous, les riches comme les pauvres. Il faut que nous soyons pauvres, mais pauvres en esprit, que nous reconnaissions que nous n'avons rien à amener dans l'équation, que tout, nous avons besoin de Jésus. Et aussi qu'il ne regarde pas aux personnes, les riches, les pauvres, il n'y a pas de distinction. Et Jésus est honoré lorsque nous-mêmes, nous ne faisons pas de distinction entre les pauvres, entre le SDF et le banquier plein aux as. Parce que Jésus sait que ça, tout ça, ce sont des circonstances, mais que le vrai problème, il est dans le cœur. Au cœur de chaque problème, il y a un problème dans le cœur. Et Jésus est venu pour guérir. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces deux miracles qui s'enchevêtrent dans le récit de Luc et qui nous montrent que tu es capable de répondre à tous, même lorsque les demandes viennent simultanément. Ça nous paraît difficile ou impossible à gérer, mais pour toi rien n'est impossible, Seigneur. Tu es tout puissant. Et surtout, Seigneur, nous voulons prendre note du fait que tu veux nous guérir, que tu nous aimes tellement que tu es allé toi-même à la croix. Sois béni, Seigneur. Aide-nous à retenir de ces passages, de ces versets, Seigneur, ce que tu avais prévu de donner à chacun, Seigneur. C'est peut-être pas la même chose pour les uns, pour les autres. Mais ton œuvre n'est jamais en vain, Seigneur. Sois béni. Amen.